Gilles Kepel, bonjour.
Bonjour.
On en parle depuis ce matin de votre livre, hein, Terreur dans l'Hexagone, l'histoire de cette rupture progressive du basculement d'une partie de la jeunesse française entre désœuvrement social, conservatisme salafiste, dont vous venez de nous parler à l'instant, qui va donner naissance d'abord à Mohamed Merah, au Nemouche, au frère Kouachi, à Koulibaly, et à une cohorte de djihadistes partis faire leur djihad en Syrie. Si vous aviez dû écrire... Gilles Kepel, Terreur en Belgique, genèse du djihad belge. Qu'est-ce que vous auriez écrit ? En quoi notre situation est différente de celle de la France ?
Alors d'abord, en quoi est-ce qu'elle est semblable ? C'est que, bien sûr, il y a la situation sociale. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure en évoquant les émeutes de 2005. Mais il y a aussi autre chose, c'est l'évolution du paysage mental de l'islamisme, du djihadisme contemporain. Et aussi bien la Belgique que la France sont impactées à partir de 2005 par ce que j'ai appelé dans le livre la troisième génération djihadiste. C'est cet ingénieur syrien qui s'appelle Abou Moussab Souri qui en janvier 2005 met en ligne un volume de 1600 pages qui s'appelle « Appel à la résistance islamique mondiale » et qui explique que ce sont les sociétés européennes qui sont désormais le terrain privilégié du djihadisme radical. Que Ben Laden s'est trompé, que l'attaque contre l'Amérique le 11 septembre, c'était peut-être très bien sur le plan médiatique, mais que l'Amérique est trop loin du champ de bataille, que finalement il n'y a pas eu de mobilisation derrière. Parce que l'économie politique du djihadisme, c'est à la fois de faire peur à l'adversaire, de le sidérer, mais il faut aussi mobiliser des soutiens et des sympathisants. Et si on n'arrive pas, ça rate.
Et cette idéologie-là, elle s'est implantée particulièrement chez nous, en France, vous en parlez dans le nord de la France, et en Belgique. On a une situation particulière dans cette histoire-là, plus qu'en Italie, en France, en Allemagne.
Oui, je crois que pour diverses raisons. Alors, ce qu'il y a de frappant, de commun entre la France et la Belgique, c'est que, à part la communauté turque en Belgique, ce sont des pays dans lesquels l'immigration d'origine et de langue arabe, ou de culture arabe, je vais y revenir, est particulièrement importante. En Allemagne, c'est plutôt turc, et en Royaume-Uni, plutôt indo-pakistanais. Or, ce djihadisme est un djihadisme de langue de référentiel arabe. Qui plus est, en Afrique du Nord, d'où viennent la plupart des jeunes qui vivent en France ou en Belgique, le français a un statut particulièrement irritant dans la logique de l'islamisme. Le français, contrairement à l'anglais qui apparaît comme une langue neutre, si vous voulez, est perçu par les islamistes comme la langue qui est porteuse des Lumières, de Voltaire, tout ce qu'ils détestent. Ali Belhadj, qui était l'un des grands idéologues du djihad algérien, avait eu cette formule, qu'il disait en arabe bien sûr, parce qu'il refusait toute interview aux Français, qui parlait du reste assez mal, qu'il luttait d'abord contre ceux qui avaient tété le lait vénéneux de la France. Tété le lait vénéneux de la France, ça voulait dire qu'il parlait français. Et pour les djihadistes qui sont ici, qui finalement, dont beaucoup ne parlent plus l'arabe ou le berbère, et l'arabe surtout, ou un petit peu de dialecte avec leurs parents, le fait d'être francophone et d'être djihadiste les conduit à une sorte de haine de soi et une haine de leur langue très particulière. On le voit dans le communiqué des attentats du 13 novembre que j'ai publié.
Dans votre livre, c'est la page numéro 2.
Voilà, en français et en arabe. C'est pas ma traduction, c'est leur. Parce qu'en fait,
qui est rempli de fautes, hein.
C'est un peu comme en Algérie, vous savez, le Conseil des ministres, on dit traduction française et originale arabe. En fait, c'est dans l'autre sens. Ça se passe en français, mais on dit que c'est en arabe. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire le texte est en un français complètement fautif, très maladroit, mais qui est farci d'expressions arabes traduites. Ça fait une langue tout à fait bizarre qui est entre le verlan et un arabe rêvé. Et vous lisez le texte arabe. Alors le texte arabe, lui, il est grammatical parfait. En revanche, il est plein de termes qui sont totalement imbitables pour quelqu'un qui ne connaît pas la France. Il fait des références au Bataclan, au 10e, en arabe, 10e et 11e arrondissement. Qu'est-ce que des locuteurs arabes peuvent y comprendre ? On voit bien comment Il y a aussi, me semble, cette espèce de haine de la situation dans laquelle les gars se trouvent, qui explique aussi la violence. Et l'une des hypothèses sur le 13 novembre, c'est que c'est pas comme Ben Laden, c'est pas un système pyramidal léniniste avec des ordres qui sont donnés. L'État islamique donne une feuille de route, et c'est Abaoud et les autres qui ont mis cette opération-là en marche avec des moyens qui sont relativement limités intellectuellement. Mon hypothèse, on y vient de tout à l'heure, c'est que le 13 novembre, du point de vue de l'État islamique, est une erreur politique.
Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est vous faire réagir. On l'entend bien, vous êtes tenant d'une hypothèse en disant depuis 2005, il y a une idéologie qui est véhiculée et qui cible l'Europe, et en particulier, vous venez de nous le dire, pourquoi la France et d'ailleurs peut-être le français en général. Mais il y a d'autres interprétations, notamment celle d'Olivier Roy, un autre islamologue comme vous, réputé comme vous, et il dit, lui, que c'est pas du tout ça qui se passe, qu'il y a une islamisation de la radicalité, en fait, l'islam n'est qu'un vernis qui vient habiller une violence générationnelle nihiliste qu'on a connue avec les brigades rouges, par exemple, et qu'il faut pas pointer en particulier un phénomène idéologique.
Oui, qui aurait maintenant des brigades vertes qui succéderaient aux brigades rouges. Oui, j'ai bien vu tout ça.
Mais donc on n'y comprend pas toujours. Il y a deux grandes interprétations possibles des phénomènes.
Oui, il y en a une qui est celle d'Olivier Roy et de ses épigones qui considèrent qu'au fond, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas la peine d'étudier l'arabe, c'est pas la peine d'aller sur le terrain. Vous le saviez déjà, comme vous savez, it's the economy stupid, ce serait it's radicalization stupid. Ça, évidemment, quand on ne connaît pas l'arabe, ce qui est son cas, on ne peut pas entrer dans la lecture des textes salafistes. Si on ne comprend pas l'impact, l'importance de la rupture en valeur que prône le salafisme par rapport à la société européenne, on passe à côté. C'est pas du tout la même chose que les brigades rouges, même si il y a des éléments qui y font penser. Il y a bien sûr des facteurs de mécontentement social, etc. Mais il y a une rupture d'un autre niveau, d'une autre qualité aujourd'hui. Et il faut bien comprendre ce phénomène, si vous voulez. On n'est pas simplement dans la reproduction des brigades rouges. Les brigades rouges n'avaient jamais cet impact social-là.
Oui. C'est pas un éternel retour de la violence intergénérationnelle, quoi. Voilà, qui s'exprime ici par l'islamisme radical.
Évidemment qu'il y a des éléments qui y font penser. Mais comparaison n'est pas raison. Or, ça, si vous voulez, et c'est là qu'il y a vraiment la différence. C'est le travail universitaire et puis les élucubrations philosophiques, si vous voulez. Soit on est dans le travail, soit on est dans ce qu'on aurait appelé à l'époque de la thèse de Périclès, dans le sophisme. C'est-à-dire que ce sont des sortes de concepts qui sont grossièrement pensés, mais qui sont simplement le reflet de l'opinion publique. Ce qui fait le succès de ce genre d'idées dans la presse. Olivier Roy, le 29 septembre 2014, dans une interview au Monde, déclare que Daesh est juste une affaire moyen-orientale et qu'il n'attaquera jamais Paris.
On connaît la suite. Justement, il nous reste maintenant 1 minute 30. Vous nous disiez tout à l'heure, les attentats du Bataclan, c'est une erreur stratégique pour Daesh. Expliquez-nous ça, il nous reste 1 minute.
Oui, parce que, à mon avis, ils sont allés trop loin. En janvier, ils ont suivi les instructions qui étaient le mode d'emploi d'Abou Moussab al-Souri, j'ai parlé tout à l'heure. Ils ciblent des intellectuels dits islamophobes, entre guillemets, des musulmans dits apostats, entre guillemets, qui ont l'uniforme français, par exemple, et des juifs, sans guillemets. Et du coup, ça clive la société, jusqu'à un certain point. Vous avez « je suis Charlie, je ne suis pas Charlie », voire des gens qui disent « je suis Koulibaly », etc. Le 13 novembre, dans le communiqué, dont on a parlé tout à l'heure, qui est reproduit dans le livre, ils ciblent Paris, capitale de la dépravation. Tout le monde, y compris des jeunes musulmans, qui vont tomber. Il y en a qui racontent, des témoins, qui ont des rescapés, qui racontent ce qui leur est passé, que les gars qui sont en train de les tuer en les visant les uns après les autres. Et finalement, tout d'un coup, au lieu d'essayer de ramasser des sympathisants potentiels, ils vont aliéner la totalité de la société. La société française n'a jamais été aussi unie, toute catégorie, toute composante confondue, qu'après le 13 novembre, contre le groupe État islamique. Vous voyez leur vidéo après. Il y en a un qui est un ancien chanteur de hip-hop qui manque une dent et qui est aujourd'hui, on le voit dans une vidéo qui psalmodie du Coran et qui dit « Alors les frères, qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que vous faites ? On vous a montré la voie, vous continuez toujours avec ces salauds de mécréants. On vous a dit ce qu'il fallait faire. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez ? » Et on sent bien cette espèce d'inquiétude. Par-delà le blabla idéologique, si vous voulez. À mon sens, alors il faut voir jusqu'où ça va être corrigé, mais il y a eu un pas qui est allé trop loin, si vous voulez, y compris dans leur logique.
Voilà, c'est une erreur stratégique de Daesh, les attentats de Paris. Vous pouvez aller plus profondément dans la réflexion et dans la pensée de Gilles Kepel et d'Antoine Jardin dans cet ouvrage « Terreur dans l'Hexagone, jeunesse du djihad français » chez Gallimard. On y reviendra dans le Plus de Matin Première à 8h10 et tout de suite, c'est votre café serré.